Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com et sur le DAB+, sur Lille. Comme chaque mercredi à partir de 16h sur Radio Campus, nous vous présentons le magazine consacré à l'Université de Lille. Donc, dans ce magazine, aujourd'hui, nous allons parler d'un événement, d'une semaine consacrée aux sciences de la Terre. Et oui, les laboratoires lillois des sciences de la Terre organisent avec la Société géologique de France, la Société géologique du Nord et le CNRS leur 26e réunion des sciences de la Terre avec 800 spécialistes qui se retrouveront à Lille, Grand Palais d'ailleurs, Lille Grand Palais, pour échanger donc sur les nouvelles études et les découvertes récentes dans leur domaine de connaissances et de compétences. Voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui pour nous présenter cette semaine particulièrement dense de spécialistes qui s'occupent de cet événement, qui est un événement national et qui se passe cette année à Lille. J'ai le plaisir d'accueillir Alain Transeau, bonjour.
Bonjour.
Et Patrick Auguste, bonjour.
Bonjour.
Alors, 800 spécialistes, ça paraît assez énorme. Et donc, une semaine de, comment on peut dire, de mise à jour, de mise à niveau, d'échange, voire même de prise de contact pour aller plus loin dans la recherche.
Ben, c'est un petit peu tout ça en fait. C'est à la fois montrer les dernières recherches, les derniers résultats qui ont été faits par les chercheurs, mais c'est aussi le moment de discuter. Les espaces inter-sessions sont très importants. Les gens peuvent discuter, prendre connaissance, nouer des liens pour les futures recherches. Donc c'est un peu tout ce que vous venez de dire. Là, c'est à la fois oui, c'est du passé récent et puis de la projection vers le futur pour les projets, choses comme ça.
C'est un événement qui a lieu régulièrement.
Alors, tous les deux ans, et à chaque deux ans, en fait, on change de ville universitaire en France. Donc, il y a deux ans, c'était à Caen. Deux ans précédemment, c'était à Pau. Et donc, ça change. Et dans deux ans, ce sera à Lyon.
Et Lille, c'était quand la dernière fois? Si votre mémoire...
Alors, Lille, bah, c'est il y a 30 ans.
Il y a 30 ans.
1988. Pile poil, oui. Et donc là, c'est un peu hasard qui s'est effectué. Mais donc voilà, 30 ans après, les géologues se réunissent de nouveau à Lille. Il y a 30 ans, c'était dans le cadre de l'université, du campus, parce qu'il y a un peu moins de monde, visiblement. Là, les nécessités de quantité de personnes à accueillir, donc plus de 800 personnes qui m'ont communiqué ou présenté des posters, en session en parallèle, disciplines différentes, etc. Donc, qui explique la semaine occupée et bien occupée, un amphithéâtre avec certaines sessions, des salles en parallèle. Donc, on a été obligé de se rapatrier, entre guillemets, sur le Grand Palais qui a l'opportunité de nous offrir, enfin, pas de nous offrir, mais enfin de nous proposer ces salles, soyons clairs. Et donc, c'est vrai que c'est un événement extrêmement important pour toute la communauté des sciences de la Terre française, francophone, de manière générale.
Donc, c'est une grande semaine, un événement, on va dire... interne d'une certaine manière entre spécialistes, avec quand même deux moments de visibilité dont on peut peut-être parler.
Oui, alors il y a deux moments de visibilité en soirée et il y a un moment de visibilité aussi le mercredi. Enfin, deux moments de visibilité le mercredi. Les deux moments de visibilité qui sont vraiment ouverts au grand public, c'est-à-dire ce sont deux conférences qui sont gratuites, ouvertes à tous ceux qui passeraient sur le trottoir en face du Grand Palais. Il y a mardi soir à 18h30 une conférence de Erwin Lehoucq, qui est un ancien étudiant d'ici, mais qui a fait son chemin depuis et qui a piloté le rover Curiosity sur Mars. Et donc, il nous propose de faire un exposé grand public. Donc c'est pas quelque chose de fondamental et pointu, quelque chose de grand public pour dire comment ce robot en fait piloté depuis la Terre, comment ce robot fait-il de la géologie sur Mars? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et puis le jeudi, il y a aussi une conférence sur le magnétisme des planètes et de la Terre de M. Cardin de Grenoble, qui donc va nous présenter les récentes découvertes. On parle des fois du magnétisme terrestre sans pas toujours bien comprendre pourquoi il y en a et quelles sont ses implications sur la vie sur Terre. Et donc là, il va nous parler de ça ce jeudi soir. Et c'est pareil, 18h30, Grand Palais, gratuit, ouvert à tous.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, oui, c'est pas ce jeudi, en effet. Oui, tout à fait, c'est la semaine prochaine.
C'est ouais. 23 et 25 octobre.
Voilà, 23 et 25 octobre.
Est-ce qu'on peut définir le champ global des sciences de la Terre? Parce que avant, il y avait d'autres noms peut-être par secteur. Est-ce qu'on peut globaliser tout ça et avoir une idée générale de l'étendue du spectre?
Oui, c'est quand même assez large. Même au sein de notre communauté, on n'est pas toujours d'accord sur la terminologie. Le terme le plus général, donc, c'est science de la Terre, avec un T majuscule, bien évidemment, même si l'agronomie peut être aussi incluse dedans. C'est ce qu'on appelle, nous aussi, plus généralement, la géologie, donc vraiment l'étude de la Terre en elle-même, avec toujours un T majuscule. Alors, on parle aussi de géosciences, en étendant un petit peu plus avec des disciplines qui s'éloignent plus ou moins de thématiques. Donc, c'est des terminologies qu'on peut utiliser de manière générale. Là, le nom de l'événement, Réunion des sciences de la Terre, donc, permet justement d'avoir des gens qui ne sont pas d'ailleurs forcément que des géologues. Il y a des géographes aussi du campus, mais aussi d'autres régions qui viennent. Des gens qui travaillent aussi dans le domaine océanique, donc pas forcément des gens qui travaillent sur du terrain très concret. Donc voilà, il y a une dynamique assez large là-dessus, puisqu'en plus on va aussi au-delà de notre planète Terre, hein, puisqu'on va, donc la première session inaugurale sera dédiée à la géologie extraterrestre, au sens littéral du terme, plus la conférence grand public du mardi. Donc voilà, c'est un petit peu difficile à définir, mais enfin, c'est vraiment toutes les disciplines traitant à un moment donné de l'histoire de la Terre, de sa formation, de son fonctionnement, passé, présent et futur, des organismes qui vivent, des interactions diverses entre l'océan, le climat, les roches, etc. Donc, montrer un petit peu toute cette dynamique qui est constamment en vigueur. On a toujours l'impression que c'est une discipline un peu vieillotte, un peu passéiste. On parle de géologie, on imagine quelque chose d'étude des roches, quelque chose d'assez mobile. Et puis, bon, les découvertes, les technologies aussi ont tellement évolué, les connaissances évoluent régulièrement. C'est une bonne occasion justement avec cette réunion des sciences de la Terre de faire le point avec les spécialistes des différentes disciplines. Également, il y a un point que je veux souligner, c'est que c'est aussi une réunion pas ouverte qu'aux gens en poste déjà, statutaires et professeurs, chercheurs, etc. Mais beaucoup de jeunes doctorants viennent souvent pour la première fois présenter leurs recherches au sein de la communauté. Et je ne connais pas actuellement les chiffres, mais généralement, c'est l'occasion d'accueillir beaucoup, beaucoup de ces jeunes. Donc c'est vraiment il y a aussi ce brassage au-delà des disciplines, un brassage des générations, donc les gens prennent contact, comme l'a dit Alain tout à l'heure. Ça permet donc vraiment une dynamique très importante, donc de montrer un petit peu à la relève, entre guillemets, comment ça se passe et de leur faire participer à ces événements dès le début de leur formation universitaire, concrètement.
Alors j'imagine qu'en plus de ce champ que vous avez défini, chaque personne de vos labos est aussi en interaction avec des personnes ressources d'autres disciplines pour traiter de la chimie, de la physique ou que sais-je.
Ah oui, les géologues, c'est géophysiciens, géochimistes. Donc, les outils qui sont utilisés par les sciences de la Terre sont des outils qui sont pas propres aux géosciences. Ce sont des spectromètres de masse et les grands instruments comme le synchrotron à Palaiseau. Effectivement, le géologue, il est plus seulement avec une chemise à carreaux et une barbe. Il est dans des labos, il regarde le ciel, il regarde les étoiles, et il regarde l'information qui provient des comètes. Il y a un bon labo qui travaille là-dessus ici sur l'île. Oui, ils sont à la croisée de différentes disciplines, et c'est de ce point de vue-là très différent de ce que pouvait être cette réunion des sciences de la Terre il y a 30 ans à Lille, où c'était plus de une géologie plus traditionnelle en fait, comparée à celle qu'on voit aujourd'hui.
Alors, je ne sais pas si la Terre change beaucoup, peut-être qu'on peut définir dans une échelle historique l'évolution. En tout cas, l'université de Lille a beaucoup changé, puisque maintenant les trois universités ont fusionné, ce qui donne une force de frappe. Est-ce que cette opportunité que vous avez là sera aussi l'occasion de faire connaître la nouvelle dimension de l'université ?
Oui, je pense bien évidemment qu'une URST se tient dans un endroit où il y a une implantation universitaire géologique ou sciences de la Terre. Donc bien évidemment, quand ça se tient avec plusieurs centaines de personnes, de collègues qui acceptent de venir communiquer, passer une semaine sur place, ça a un retentissement bien évidemment. Si ça se passe bien, ce qu'on espère bien évidemment, c'est un très très bon signal pour les laboratoires organisateurs et puis l'entité globale qui gère les réunions des sciences de la Terre, la Société Géologique de France. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire quelques mots dessus. Et donc c'est sûr que plus l'entité organisatrice locale, en l'occurrence l'Université de Lille, mais surtout trois laboratoires lillois impliqués dedans sont importants, soutenus par l'université, ce qui était notre cas, par les instances CNRS, la région, le département, la mairie de Lille, etc. Donc c'est sûr qu'on sent qu'il y a derrière une masse critique assez intéressante. Donc on se dit, bah là, on est dans un contexte favorable. Donc une université fusionnée, au-delà des aspects montée en puissance du nombre de personnes concernées, c'est aussi une fusion des disciplines. Donc là, évidemment, alors peut-être pas trop dans la nôtre, mais enfin bon, on peut très très vite se lier avec les sciences humaines, par exemple sur l'évolution des sociétés préhistoriques incluses elles-mêmes dans les sédiments. Donc c'est aussi de la géologie, c'est la géologie du quaternaire, ou éventuellement la médecine, des choses comme ça. Donc en effet, on peut être à l'interface de pas mal de choses, et avoir un grand campus général, enfin une grande université, c'est un plus, c'est évident. Puis c'est la voie, entre guillemets, qu'il était impossible d'éviter. Donc, de toute façon, il faut mieux l'utiliser en tant que tel.
Alors, vous parliez un tout petit peu des sciences humaines en collaboration avec les sciences de la Terre. Est-ce que les sciences de la Terre, les chercheurs des sciences de la Terre ont plus de facilité à trouver des financements pour des recherches ?
Que les sciences humaines, je ne sais pas. On a de la difficulté à trouver des financements, mais on finit par en trouver quand même. C'est difficile dans les deux cas, je crois, mais c'est vrai que il y a des séances de géoarchéologie là au cours de cette conférence, et ça tient, je pense, 3 demi-journées. Donc ça montre qu'il y a une vraie communauté interdisciplinaire, c'est-à-dire qui regroupe à la fois des chercheurs qui sont de ex-Lilin, sciences et technologies, et puis sciences humaines. Donc il y a des interactions très fortes, parce que les techniques dont ont besoin les gens, les archéologues, sont des techniques que les géologues, au sens plus classique du terme, utilisent. C'est-à-dire que il y a une vraie interaction. On a des programmes communs. Patrick participe, enfin travaille régulièrement avec des archéologues, nous aussi, donc dans différents laboratoires. Donc oui, c'est l'occasion. Alors après, l'intérêt de la fusion, je pense que les politiques, on a notre vice-président en recherche qui viendra dire un mot au cocktail de bienvenue. Je pense qu'il dira tout le bienfait qu'il pense de cette fusion. On n'a pas de doute par rapport à ça.
Alors, vous allez accueillir beaucoup de gens en Hauts-de-France, d'une manière générale, on va dire ça. Hein. Est-ce que les Hauts-de-France ont, en termes de ressources de recherche hein, possibles, des lieux emblématiques avec des choses étonnantes que le public ne connaît pas forcément ? C'est peut-être l'occasion de faire un petit peu le point. En archéologie, par exemple.
Alors, l'archéologie, c'est peut-être que Patrick peut en parler, mais c'est vrai que on a des sites géologiques remarquables. Alors, l'essentiel, il y en a quelques-uns qui sont en France. Le Boulonnais est un site vraiment remarquable. C'est les falaises qui sont entre Boulogne-sur-Mer, on va dire, et le Cap Grenet représentent un équivalent d'un système pétrolier à l'air libre. Donc ça permet aux étudiants de se former, et des étudiants de France, de Belgique, des Pays-Bas viennent visiter ces affleurements. Donc affleurements, c'est-à-dire les roches qui sont à la surface de la Terre visible. Et donc oui, c'est des sites vraiment remarquables qui sont des équivalents de systèmes dans lesquels les Néerlandais et les Anglais vont, eux, chercher du pétrole. On a l'équivalent sans pétrole, mais voilà, ça permet aux étudiants en sciences de la Terre de se frotter aux rochers et de voir comment ça se met en place. Et après, on a en région, plus en allant vers les Ardennes, en allant vers la Belgique, essentiellement Wallonne, énormément de sites vraiment merveilleux pour apprendre les sciences de la Terre et qui permettent de comprendre beaucoup de choses. Voilà, on a des beaux sites, oui, tout à fait.
C'est sûr que la fusion des deux anciennes régions, Picardie et Nord-Pas-de-Calais, a permis, d'entériner ce que nous, on faisait de toute façon par ailleurs, parce que pour nous, la géographie administrative, politique, ne peut pas avoir cours. Hein. On est obligé, nous, de dépasser ces frontières et ne pas en tenir compte, heureusement. Donc, on savait déjà que notre région Hauts-de-France a un potentiel extrêmement important depuis le Paléozoïque, donc parmi les plus anciennes traces de vie présentes jusqu'aux périodes les plus récentes sous nos pieds, dans nos villes, etc. Il y a un patrimoine géologique qui est enfin reconnu maintenant comme le patrimoine naturel biologique, on va dire, botanique, zoologie, également géologique, aussi le patrimoine, donc ça c'est très important. La région de France est une des premières, avec la Bretagne, à avoir développé la préservation, l'inventaire de ce patrimoine. Ça aussi c'est souvent un petit peu ignoré, mais on a donc des personnes très très actives, avec qui on travaille souvent en spécialiste, en expert, etc. Et donc ça aussi c'est un point majeur. Après, les centres de recherche, là, évidemment, c'est aussi, par rapport au nombre de personnes, on n'est pas la région la plus privilégiée, ça, il faut le reconnaître, par rapport à des zones plus méridionales en France, tout le quart, la zone parisienne, bien entendu, toute l'Île-de-France, et puis la partie sud-ouest qui est privilégiée. Là, c'est vrai que là, par contre, il y a un gros manque d'investissement au niveau de la recherche, de l'enseignement supérieur, qui est régulièrement décrit et qui date depuis une centaine d'années après la Première Guerre mondiale. Donc, on est toujours dans cette dynamique encore pas totale, on va dire.
Alors, si on fait un petit point d'histoire, la Terre est très ancienne. Hein. On peut remonter à combien la création de la Terre, hein. Est-ce qu'on a vraiment une idée de plus en plus précise?
Oui,
4 milliards et demi, 4,55. Oui. Milliards d'années.
D'accord.
On va parler plutôt de formation que de création de la Terre. Hein. Soyons prudents avec la terminologie. Oui. Voilà, c'est
donc,
une formation.
L'apparition de la vie sur Terre, alors on mettrait ça à quelle époque?
Alors ça, par contre, c'est un gros débat. Hein, ça,
oui, les premières cellules, 3 milliards et demi, 3 milliards 8 éventuellement, mais des cellules qui commencent à faire la photosynthèse. Après, bon, c'est le passage de cette genre de vie primitive unicellulaire à une vie plus complexe, multicellulaire, qui est plus discutée. Mais la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est reconnue aujourd'hui comme étant apparue, enfin au moins des organismes multicellulaires diversifiés à partir de 600 millions d'années à peu près par rapport à avant aujourd'hui.
Et donc on peut peut-être parler de l'homme en région, les plus anciens hommes et sous quelle forme
Alors dans la région, on a la chance d'avoir quand même un certain nombre de gisements à la fois préhistoriques, donc présents, qu'on retrouve lors des fouilles paléolithique essentiellement, puisque là je parle vraiment du passé très ancien, c'était même pas encore Homo sapiens. Les plus anciennes preuves de présence humaine avérées, parce qu'il y a beaucoup de sites plus anciens qui posent problème, mais c'est donc à Abbeville, donc dans la Somme, au niveau de la vallée de la Somme, où là on a vers 600, 650 000 ans, la présence humaine claire, avec de l'industrie lithique fabriquée par les hommes de l'époque, des animaux abattus, chassés, etc. On n'a pas malheureusement les restes humains si anciens, mais on sait qu'il y a la présence humaine. C'est probablement une forme qu'on appelle Homo edelbergensis, qui est l'ancêtre de ce qui va donner en Afrique Homo sapiens, nous, et en Europe et en Eurasie, une partie de l'Eurasie, l'homme de Néandertal.
Donc c'est quand même ici une des clés de... Est-ce qu'on peut parler d'évolution homogène ou de rupture? Comment on peut dire
alors,
les choses?
Le fait que l'on soit en position très haute au niveau de la latitude, on n'a pas d'occupation continue, ce qui n'est pas le cas bien sûr dans la zone méditerranéenne ou pendant les périodes glaciaires qui vont jalonner tout le quaternaire. On se retrouve souvent nous en position périglaciaire. Au maximum du froid par exemple, les glaciers étaient au sud de Londres. Nous, on était dans une zone peu accessible, donc pratiquement pas de végétation, peu d'herbivores pour la consommer, et les hommes n'étaient pas présents pendant certaines périodes très très froides. Donc on est une zone, un carrefour biogéographique, comme encore actuellement, hein, donc avec des différences bien sûr, et donc on a toujours une discontinuité globale, on n'a jamais une évolution locale, on a toujours des mouvements migratoires, c'est un gros sujet s'il en est, mais là on parle vraiment de migration à très grande échelle de temps
donc
et d'espace.
Les migrations climatiques pour le coup aussi?
En l'occurrence oui. Voilà, donc climatique à très grande échelle avec les grands cycles climatiques d'environ 100 000 ans ou 20 000 ans, 10 000 ans, mais aussi des variations saisonnières aussi qui avaient lieu dans les périodes où le climat était plus continental, les périodes froides bien sûr, où là les hommes occupaient la région que pendant la bonne saison et la désertaient pendant la mauvaise saison parce que les herbivores n'étaient plus là, donc il n'y avait plus rien à manger.
Alors c'est vrai que maintenant on a tendance à considérer plutôt les hommes comme des gens stables à un endroit précis. À l'époque, il fallait vraiment voir en fonction des circonstances pour trouver à se nourrir, etc. Et les conditions climatiques, il fallait voyager.
Oui, alors on parle de chasseurs-cueilleurs nomades. Les premières cités apparaissent bien après la fin de la période glaciaire du Pléistocène, donc la période géologique qui précède celle où on est actuellement, l'Holocène, qui est globalement une période interglaciaire. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout de sédentarisation auparavant, même si on a des zones d'occupation qui durent très longtemps, là où le climat le permet, où la végétation le permet, les animaux le permettent, etc. Mais donc, voilà, dans notre région, ce n'est pas Le cas, donc, d'un autre côté, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'éviter des mélanges, entre guillemets. On a la possibilité de pouvoir bien dater les différentes occupations humaines avec toutes les disciplines justement des sciences de la Terre, entre les collègues qui étudient la sédimentation, les datations radiométriques, les dépôts de grains de pollen qui sont présents, les restes fauniques, donc ça c'est ma partie des grands mammifères, qui permettent d'avoir beaucoup d'informations sur les climats, le contexte écologique, les paysages, et aussi la manière dont les hommes se comportaient d'un point de vue alimentaire par rapport à comment ils s'inséraient dans leur environnement à l'époque.
Alors, toujours dans notre région de France, si on prend le cas particulier de la zone aragoise, par exemple, est-ce qu'il y a eu rapidement, est-ce qu'il y a eu une vie collective ont été validées en fait, par les chercheurs assez vite, ça a pris beaucoup de temps?
Dans la région d'Arras en particulier, on a entre Arras et Douai un site important majeur pour toute la préhistoire, c'est Biache-Saint-Vast. Un site où deux crânes de Néandertal ont été trouvés, datant d'environ 240 000 ans. Donc on a les premiers Néandertaliens identifiés. Ils sont déjà présents dans le nord de la France, dans un site extrêmement riche que l'on souhaite à un moment donné pouvoir reprendre. Mais enfin bon, c'est un contexte industriel peu accueillant. Mais voilà, on a des indices qui sont discontinus dans l'espace, dans le temps, comme je l'ai dit. Donc ça nécessite bien sûr, en plus on a, nous, une spécificité géologique. Ce sont en grande partie, dans beaucoup de régions, des dépôts de leus, donc des dépôts de sédiments très fins apportés par les vents pendant les périodes froides, quand il n'y avait plus de végétation pour retenir les sédiments. Et donc on a parfois des endroits où il y a plusieurs mètres de leus qui vont protéger, sceller les gisements, mais qui vont devoir nous obliger à descendre pour les fouiller. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. C'est les fouilles préventives, souvent, les fouilles de sauvetage, qui ont les moyens, parce qu'il faut de l'appel mécanique, il faut des gens payés pour le faire. Et donc ça, c'est pour ça que beaucoup de gisements sont découverts et on est obligé, entre guillemets, d'aller vite pour les sortir. C'est très rare quand on arrive à faire ce qu'on appelle les fouilles programmées, où on prend son temps pour revenir tous les ans au même endroit, de sortir tout bien, sereinement, on va dire, pour avoir le maximum d'informations et les exploiter ensuite en laboratoire.
Est-ce qu'on arrive à remettre l'homme, enfin les différentes variétés, on peut dire d'homme si vous voulez, dans un contexte aussi de vie animale, d'espèce animale?
Tout à fait. Alors c'est pas du tout péjoratif, mais l'homme se comporte pendant longtemps comme un animal à part entière. Il vit en contact, en étroite relation avec tout ce qui l'entoure. Il s'en nourrit, donc que ce soit les végétaux, mais on a peu d'éléments qui le démontrent, mais on en a quand même. Surtout, voilà, le monde animal, c'est un monde, même avant, on va dire, Cro-Magnon, où on pense que là, les choses se développent, on a énormément d'indices qui sont préservés dans le sol, qui nous montrent que l'homme vivait au milieu d'un garde-manger. Il y avait une biodiversité, une biomasse animale, grands mammifères, plus petits mammifères, extrêmement abondante. On a du mal à se l'imaginer. Donc il y avait très très peu de démographie à l'époque, très très peu de groupes humains qui étaient présents. Il faut attendre vraiment la révolution industrielle pour commencer à avoir un développement significatif. Donc on arrive à identifier le comportement même parfois très fin des hommes parce qu'ils utilisaient des outils en silex dans la région. C'est la roche la plus développée, la plus utile en plus. Et donc quand ils découpaient leurs animaux, ils laissaient des marques de découpe à la surface des eaux, qu'ici l'os est bien conservé, nous des centaines ou de milliers d'années plus tard, on est capable de retrouver, d'identifier et de décrire à travers ces marques le comportement des hommes, s'ils chassaient plutôt telle espèce ou telle espèce, tel âge, ça peut être qu'ils peuvent chasser des jeunes, des adultes, etc. Donc on arrive à faire ce qu'on appelle l'archéozoologie, donc l'étude des relations entre les hommes et les animaux pendant les périodes anciennes.
Donc les hommes de cette période n'étaient pas spécifiquement vegan, visiblement.
Alors non, ça, il doit y avoir une petite part de consommation d'herbivores, on va dire, pour simplifier les choses. Mais non, ce qu'on se rend compte assez systématiquement et de manière très générale, ce sont essentiellement des mangeurs de viande. Ça, on se rend compte, l'homme, fondamentalement, pendant toute la majeure partie de son histoire, est un carnivore au sens alimentaire du terme, carnassier.
Voilà, mais plein de choses passionnantes. Alors, je ne sais pas si ces thématiques-là seront traitées de manière privilégiée, mais ça foisonne, en fait. Les sciences de la Terre, c'est immense.
Oui.
C'est d'ailleurs c'est ce que vient de dire Patrick. On parle d'interaction entre l'homme et son environnement à l'époque, mais aujourd'hui l'homme a laissé une lourde empreinte sur son environnement. Tout le passé industriel, c'est aussi une branche des sciences de la terre actuelle où les gens s'intéressent au sol pollué, à la remédiation. Donc comment faire d'un sol fortement pollué dans une région qui a été fortement industrialisée, comment faire en sorte que ce sol redevienne cultivable ou redevienne plus accueillant. Ça, c'est aussi des branches des sciences de la Terre qui se développent pas mal et qui seront bien représentées au cours de ces quelques journées qu'on va passer ensemble.
Alors, pendant que vous êtes ici, peut-être c'est le moment de lancer un appel, hein, si vous avez une demande, un besoin, exprimer peut-être une envie, un concept au public, le partager, peut-être partager un projet, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de le faire.
Alors, le public, on l'a invité pas mal, et nous, on compte beaucoup sur le relais des enseignants de sciences de SVT, en fait, de sciences de la vie et de la terre, c'est-à-dire les enseignants de lycée et de collège. Et donc, c'est pour ça qu'on a ménagé pour eux spécialement le mercredi une journée complète où on va montrer quels sont les différents métiers des sciences de la terre. Aujourd'hui, c'est relativement, c'est peut-être un peu méconnu toutes ces histoires de sol pollué, de planétologie, de géologie, de bassins sédimentaires, de ressources, d'interaction avec l'archéologie. Et donc, on veut montrer à ces enseignants qui seront après nos relais vers les enfants et vers les lycéens, quels sont les métiers des sciences de la Terre. Nous, parmi tous les objectifs qu'il y a dans ces sciences de la Terre, c'est aussi de faire connaître ces sciences de la Terre et de montrer leur utilité au jour le jour, de montrer que c'est pas uniquement pour chercher du charbon comme on le faisait avant dans la région, ou du pétrole comme on le fait encore en France, mais c'est aussi aller vers les énergies nouvelles, les énergies marines renouvelables, les énergies géothermiques, toutes des choses qui sont en relation avec les sciences de la Terre, mais qui ne vont peut-être pas de soi, en fait. Quand on pense sciences de la Terre, c'est peut-être pas à ça qu'on pense en premier, et c'est pourtant dans ces domaines-là qu'on va placer le plus d'étudiants dans le futur, et ce sera pas des gens qui vont l'étude justement des roches du bassin de Boulonnais au millimètre près. C'est peut-être plus tellement ce genre de géologue qu'on cherche. C'est une diversité plus grande, plus peut-être en prise avec les contraintes environnementales et puis les préoccupations environnementales que l'on peut avoir.
Voilà, donc de grands défis nous attendent. Vous êtes prêts?
On n'est jamais prêt pour des grands défis, hein, je pense, mais le but, voilà, c'est de se préparer au maximum, de préparer les collègues et puis de préparer, comme j'ai dit tout à l'heure, la relève, ce qu'a bien aussi souligné Alain, c'est que voilà, il y a une telle diversité maintenant de champs d'application pour les sciences de la Terre, pour la géologie, que il faut pas se restreindre uniquement aux anciens domaines, entre guillemets, qui ne sont absolument pas dépassés non plus. Hein. La géologie de base, la paléontologie de base, la description des organismes, elle est essentielle, il faut être capable encore de le faire. Et ça serait un dommage de ne se concentrer que sur certains aspects plus modernes, plus rentables, entre guillemets, d'un point de vue implantation humaine, gestion des zones d'aménagement, etc. Donc c'est important, mais il faut que ça reste toujours un ensemble. Et c'est bien le but de la réunion des sciences de la Terre, c'est de réunir justement toutes ces disciplines qui ne travaillent pas forcément en commun ou qui ne pensent pas forcément à partager leurs connaissances. Et on va se rendre compte parfois qu'il y a des gens qui font un travail avec des technologies qui peuvent être parfaitement utilisées dans d'autres domaines auxquels ils ne pensaient pas. Et réciproquement, il peut y avoir beaucoup d'interactions comme ça. C'est cette synergie qu'on souhaite nous mettre en avant à notre échelle lilloise au sein de la RST pendant une semaine. Mais comme l'a dit Alain aussi, c'est de permettre aussi aux gens de prendre contact. C'est souvent ça maintenant. À quoi servent les grandes réunions? C'est que les différents participants, jeunes et moins jeunes, les deux, là je vous dis qu'on sait qu'il y aura beaucoup de jeunes chercheurs en formation, de jeunes futurs enseignants ou praticiens, Julien Piquet, qui seront présents, qui donc pourront être en contact avec des gens qui ont acquis une expérience, etc. Donc il y a vraiment toute cette dynamique qui se fait dans une ambiance assez conviviale, on l'espère en tout cas, mais généralement le monde de la géologie n'est pas très triste, on va dire, hein, donc c'est, je ne dis pas que la bière va couler à flot, mais elle sera présente quand même, mais
profiter de la région pour les touristes.
Et exactement, voilà, de toute façon, à consommer avec modération, mais voilà.
Et je pense que vous serez là pour accompagner vos confrères si nécessaire.
Voilà, pour ne pas faire tâche pour leur montrer comment on fait, voilà. Ouais. Puis on n'est pas une région viticole, donc c'est vrai
Il faut faire avec ce qu'on a, les moyens du bord.
Donc, voilà.
Juste une dernière question. Vous parlez quand même un peu hein, de ce sujet. L'équilibre à trouver entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche développement, est-ce qu'il est bon? Est-ce que vous pensez qu'il faut préserver des choses, garantir aussi?
La difficulté, c'est de garder une expertise pointue, en fait, donc de continuer à développer les savoirs à la limite purement académiques, c'est-à-dire continuer à faire de la recherche de pointe. Mais c'est intéressant que dans les équipes soient d'autres personnes, mais qu'il y ait aussi des personnes qui soient capables d'appliquer leur recherche de pointe à des sujets peut-être plus concrets, en tout cas, et peut-être plus bankable, en tout cas qui vont intéresser la société. L'université, c'est aussi, on est en interaction aussi. On ne doit pas rester dans notre tour d'ivoire sans contact avec la société qui nous entoure, bien sûr.
Et voilà, en tout cas, c'est l'occasion avec ces 800 spécialistes des sciences de la Terre avec un T majuscule, bien sûr, qui sont attendus la semaine prochaine du 22 au 26 octobre avec ces rendez-vous ouverts au public. Est-ce qu'il y a un site où on peut avoir plus d'infos?
Oui, alors c'est www.rst-sgf.fr.
Voilà, bien merci Alain Transo et merci Patrick Auguste, et je ne peux qu'inciter tous nos auditeurs et aussi leurs amis, leurs relations, à aller en masse découvrir tout ce qui les attend là-bas, sur place, et profiter aussi d'échanger avec les personnes qui sont présentes, les scientifiques, qui sont des gens qui ne sont pas forcément dans leur tour d'ivoire, hein.
La preuve,
non.
Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Et au revoir. À une prochaine, avec grand plaisir.
Très bien. Au revoir.